Le magazine de la Sojou. Bienvenue au magazine des Nations Unies à la une. Cet exercice de secours d'urgence des avions en situation de danger à l'aéroport international de Ndjili, organisé lundi dernier, cette initiative de la Régie des voies aériennes a été appuyée par la MONUSCO. Pour la rubrique décryptage d'aujourd'hui, Jean-Pierre Elali, dans ce studio, nous dit de quoi il sera question.
Oui, en bref, Mireille, avec un expert de l'ONU Habitat, nous allons décortiquer quelques concepts relatifs à la réforme foncière, réforme qui a été au centre de l'atelier organisé par le gouvernement du 19 au 20 juillet dernier, c'était à Kinshasa.
Merci Jean-Pierre, nous parlerons également de la campagne de vulgarisation de l'allaitement maternel, ce sera avec un expert de l'UNICEF qui est notre invité. Restez avec nous pour la suite.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et merci de votre fidélité. Comme annoncé dans le sommaire, la Régie des voies aériennes et la MONUSCO ont organisé ce lundi 30 juillet un exercice de secours d'urgence des avions en situation de danger à l'aéroport international de Ndjili. Cette opération, baptisée COMBEX 1, a pour objectif d'assurer la sécurité des avions en détresse, conformément aux normes de l'Organisation internationale de l'aviation civile. Les détails dans ce reportage de Jean-Pierre Elali Coco.
Ce sont là des sirènes des ambulances et de la Régie des voies aériennes et de la MONUSCO. Ils annoncent le début de l'opération de simulation des secours des aéronefs. L'exercice consiste à secourir un avion en difficulté après son atterrissage ainsi que ses passagers menacés par l'incendie de l'appareil. Concrètement, l'avion atterrit d'urgence, des alertes sont activées. Aussitôt, des ambulances, la police, un hélicoptère ainsi qu'un personnel médical sont mobilisés pour assurer l'évacuation rapide des blessés. Pendant ce temps, des véhicules anti-incendie de la MONUSCO et de la RGA s'appellent à maîtriser l'incendie. Quel sens est donné à cette toute première expérience de simulation de secours? Le directeur intermédiaire de l'administration de la MONUSCO, M. Wallace Edouine, répond.
Il faut avoir un moyen de sécuriser l'aéroport et surtout quand il y a des accidents, essayer de voir comment évacuer des gens, surtout ceux qui sont gravement malades. Donc c'est un exercice qu'on a fait beaucoup de temps par écrit, même pas en réalité. Donc c'est la première fois qu'on fait ça. Je pense que dans l'avenir, on va faire beaucoup d'autres exercices. Comme ça, quand un jour, comme l'an dernier, en 2011, le 4 avril 2011, un jour, on a un tel problème, on sera chassé près.
Quelle est l'implication de la MONUSCO dans cette manœuvre? On écoute encore les directeurs intérimaires de l'administration de la MONUSCO.
On a fourni le personnel et les équipements. Il faut tout d'abord dire que ce n'est pas notre exercice, hein. Ça c'est la RVA, mais on est là pour appuyer.
Cette opération intervient 2 mois avant la tenue du 14e sommet de la francophonie. Question pour la RVA de mettre toutes les batteries en marche pour offrir aux hôtes et aux marques des conditions d'accueil dignes de leur rang.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
L'ONU Habitat et le gouvernement de la RDC ont tenu les 19 et 20 juillet dernier un atelier sur la réforme foncière. Nous revenons sur cet atelier pour décortiquer avec le conseiller principal de l'ONU Habitat RDC des concepts tels que réforme foncière et son contenu, les affaires foncières, les établissements humains, le cadastre et autres. Oumar Sylla explique au micro de Jean-Pierre Elali.
Monsieur Oumar Sylla, bonjour.
Bonjour.
L'ONU Habitat et le gouvernement de la RDC ont tenu le 19 et le 20 juillet dernier un atelier sur la réforme foncière. Alors, première question, qu'est-ce que c'est une réforme foncière? Quels sont les éléments de la réforme?
Cette capacité nationale sur la réforme foncière est une initiative du gouvernement congolais et plus précisément du ministère des Affaires foncières. L'UN Habitat appuie dans ses efforts de modernisation et d'amélioration de la gouvernance foncière depuis une année. L'objectif de cette capacité, c'était effectivement de réfléchir sur une feuille de route pour la réforme foncière. Et conformément à votre question, une réforme foncière veut dire quoi? Un système de gestion foncière est évolutif. À un moment donné, il faut revenir sur les lois et les institutions de gestion pour voir si ça répond aux préoccupations politiques d'un pays. Et en ce qui concerne la RDC, aujourd'hui, il y a tout un consensus relatif à l'inadaptation de la loi française de 1976 par rapport au nouveau contexte du pays. Parce qu'un régime foncier doit être opérationnel pour la promotion des investissements, mais aussi pour la promotion de la cohésion sociale et de la pacification en ce qui concerne la RDC, parce que aussi, comme vous le savez, l'accès à la terre et pour les ressources naturelles d'une manière générale sont source de conflits. Un autre élément du devoir d'un point de vue institutionnel, c'est la meilleure architecture pour gérer et promouvoir une bonne gouvernance foncière. Pour tout résumer, donc, une réforme foncière doit répondre à l'ensemble de ses préoccupations, mais aussi dire qu'une réforme foncière est un processus qui doit passer par différentes étapes.
Oui, nous allons y revenir sur l'atelier proprement dit. Est-ce qu'il y a une différence entre les établissements humains et les affaires foncières?
Il n'y a pas une différence entre les établissements et les affaires foncières parce que le foncier, c'est la base des établissements humains. Et dans le mandat de UN Habitat, c'est la promotion effectivement du développement urbain, mais aussi l'amélioration des politiques foncières parce que le foncier, c'est la base d'un développement urbain. Si on n'a pas de l'espace pour les infrastructures, si on n'a pas un régime foncier bien défini, on aura du mal à réussir une bonne politique urbaine. C'est pour ça que la philosophie de UN Habitat, c'est de travailler sur la base qui est la terre, qui est la base de tout développement, promouvoir un aspect vraiment positif des établissements humains.
Est-ce qu'il y a aussi un rapport entre les affaires foncières et les cadastres?
Bien sûr, si tu veux bien, techniquement, le cadastre est un outil technique de gestion foncière et ça fait partie des prérogatives du ministère des affaires foncières parce que vous avez, pour la RDC, vous avez le conservateur des titres immobiliers, mais aussi vous avez le chef de division du cadastre, le cadastre qui s'occupe de toute la dimension technique en ce qui concerne les affectations et les désaffectations des terres. Et si vous voulez bien, un département très très important et très très crucial pour la bonne gouvernance foncière.
Nous allons revenir sur les recommandations qui étaient faites lors de cet atelier. Vous avez tout à l'heure parlé de la réforme foncière. Et qu'est-ce qui bloque aujourd'hui le bon fonctionnement des affaires foncières en RDC selon vous, monsieur Silva?
En ce qui concerne UN Habitat, nous travaillons dans l'aide depuis 2009 dans un processus de prévention et de résolution des conflits fonciers. Il faut savoir que un conflit foncier n'est que le signe ou les conséquences d'un dysfonctionnement d'un système administratif, institutionnel, juridique et même politique. Pour revenir concrètement à votre question, nous, l'analyse que nous avons faite, c'est qu'il y a tout un ensemble de questions sur lesquelles il faut travailler aujourd'hui pour améliorer la gouvernance foncière. Premier élément, c'est de voir comment éviter les conflits fonciers et qui est conforme à l'agenda du gouvernement par rapport à ça. Et c'est l'aspect aussi relatif à l'inadaptation de la loi foncière aujourd'hui qui ne répond plus à certaines préoccupations ou à certains phénomènes sur le terrain. Donc c'est tous ces conflits entre chefs coutumiers et lois, c'est tous ces conflits qui sont relatifs à l'allocation des terres dans les zones post-conflit. Donc pour dire qu'aujourd'hui nous magnifions cette volonté du gouvernement congolais de rentrer dans les réformes foncières qui donne l'opportunité à tous les acteurs qui travaillent sur la question de s'inscrire dans une dynamique cohérente mais aussi de trouver des solutions durables aux problèmes fonciers pour promouvoir la cohésion sociale, mais aussi pour promouvoir le développement économique et social.
L'une des résolutions de votre atelier, c'était qu'il faut impliquer les chefs coutumiers dans la résolution de ces conflits. Comment il faut les impliquer?
Encore une fois, il faut préciser que ce n'est pas l'atelier de UN Habitat, c'était l'atelier du gouvernement congolais. Donc nous appuyons seulement en tant que structure technique. Il est nécessaire de voir dans quelle mesure mettre le processus plus participatif et inclusif. Parce qu'il y a plusieurs acteurs aujourd'hui qui interviennent dans la gestion foncière, que ce soit de fait ou de droit. Vous avez les structures de l'État, mais de l'autre côté, vous avez les chefs coutumiers qui revendiquent une légitimité traditionnelle sur les terres en matière de gestion foncière. Donc, pour en arriver à une solution, je pense qu'un débat s'impose, une table de discussion s'impose pour voir quelles sont les bonnes pratiques et quelles sont les structures coutumières qui peuvent contribuer à la bonne gestion foncière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler de réforme foncière ou de changement des lois et des institutions foncières sans pour autant avoir ce débat avec les acteurs qui se considère de manière légitime comme étant détenteur du pouvoir foncier.
Mais dans l'atelier aussi, on a préconisé la mise en œuvre d'une feuille de route pour, bien sûr, amener à un bon port les processus de réforme foncière. Quel est, M. Silla, les contenus de cette feuille de route?
Cette feuille de route, premièrement, on parle de la nécessité d'avoir une politique foncière en RDC qui permet d'avoir une vision plus globale et plus cohérente des problèmes fonciers qu'elle se pose et quelles sont les solutions. Le deuxième point de la feuille de route, qui effectivement la révision de la loi frontière en conformité avec cette vision dégagée par le gouvernement. Mais entre les deux aussi, il y a ce qu'on appelle les mesures intérimaires, parce qu'aujourd'hui, il y a tout un besoin de modernisation de l'administration frontière qui fait face à des défis d'ordre logistique, à des défis d'ordre matériel et même de capacité. Et tout ça, c'est le soubassement d'une bonne réforme frontière.
Avec ces termes que nous terminons notre entretien à M. Silla, je répète que vous êtes de l'ONU Habitat. Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions.
D'accord, c'est moi qui vous remercie.
En bref, les femmes réunies au sein du cadre permanent de concertation des femmes congolaises, CAFCO en cible, disent non à la balkanisation de la RDC. Elles ont exprimé lors d'une manifestation en mardi dernier à la paroisse Notre-Dame de Fatima à Kinshasa. Avec l'appui du PNUD et de la MONUSCO, elles ont dénoncé ce qu'elles appellent l'agression et l'atteinte de la souveraineté et de l'intégrité de la RDC. Ces femmes disent agir conformément à la résolution 1325 du Conseil de sécurité de l'ONU, impliquant les femmes dans la prévention, le règlement des conflits et dans la consolidation de la paix, ceci au regard de la guerre qui sévit au Nord-Kivu. Pour sa part, OCHA a exprimé lundi dernier sa préoccupation devant le sort des populations civiles dans la région du Nord-Kivu. Selon cette agence onusienne, plus de 220 000 personnes ont dû fuir leur foyer en raison de la multiplication des violences. OCHA rappelle que la semaine dernière, une série d'affrontements armés ont provoqué de nouveaux déplacements de population. Il s'est agi des combats entre les forces armées de la République démocratique du Congo et le M23. Et puis les détenus de la maison carcérale Molaï de Matadi ont reçu jeudi dernier un don de la MONUSCO. Des pelotes de laine et accessoires pour les femmes détenues et deux ballons de foot ont été remis aux hommes. Retenez que ce don provient d'une contribution à titre volontaire du personnel de la MONUSCO Matadi. Merci de rester avec nous pour écouter ce dont va nous parler notre invité du jour.
Magazine des Nations Unies.
L'UNICEF et le gouvernement ont lancé au courant de cette première semaine du mois d'août une campagne de vulgarisation de l'allaitement maternel. C'est autour de ce sujet que nous allons nous entretenir avec notre invité. Il s'agit du docteur Simeon Nanama, responsable de la nutrition pour l'UNICEF RDC, à qui nous disons bonjour.
Bonjour madame.
Avant d'en parler, pouvez-vous nous dresser le bilan des campagnes antérieures de 2008 à ce jour par exemple?
Les années passées, les thèmes ont porté sur divers aspects, mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que les manifestations permettent à chaque année de rappeler au public l'importance de l'allaitement maternel et puis d'inviter donc les mères à prendre en considération la nécessité d'allaiter exclusivement leurs enfants durant les 6 premiers mois de leur vie. En termes d'impact, il est un peu difficile de l'évaluer, mais si on se réfère aux enquêtes qui ont été faites en particulier entre 2001 et puis 2010, on constate qu'il y a eu une augmentation assez significative du taux d'allaitement maternel qui est passé de 24% en 2001 à 37% en 2010, et je pense que ça, c'est la résultante de plusieurs actions, pas seulement les campagnes, mais aussi effectivement des actions qui incluent les campagnes de célébration de la semaine mondiale de l'allaitement maternel.
Ça fait quand même beaucoup de campagnes, hein, mais qu'est-ce que cette nouvelle campagne apporte de plus important que les précédentes?
C'est une très bonne question parce que le thème de cette campagne est relatif à des leçons que nous devrions tirer sur les plusieurs années de pratique de cette activité de célébration de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel. Et donc, cette année, l'idée, c'est de se refaire un retour dans le passé, voir qu'est-ce qui a été fait et essayer de tirer les leçons pour essayer de construire de nouvelles stratégies qui vont nous permettre d'aller un peu plus vite vers des taux élevés d'allaitement maternel exclusif.
C'est un peu comme une remise en question.
Non, ce n'est pas une remise en question. Je pense que c'est juste une halte pour tirer des leçons, pour apprendre de ce qu'on a fait dans le passé. Ça ne veut pas dire que ce qu'on a fait dans le passé est nécessairement négatif, mais je pense que dans tout processus, il convient à un certain moment que l'on puisse marquer une halte, qu'on puisse s'arrêter et qu'on puisse faire une analyse, tirer des leçons et voir comment on améliore l'approche.
Les femmes constituent la cible la plus importante dans cette campagne, en des termes bien simples, parce qu'il n'y a pas que des femmes intellectuelles. Hein. Est-ce que vous pouvez nous dire, Monsieur Siméon, l'avantage de l'allaitement maternel?
Oui, l'allaitement maternel a plusieurs avantages. Il faut dire que c'est l'aliment qui est le plus adéquat et le plus approprié pour l'enfant. Il contient tous les éléments nutritifs. Il contient aussi une importante quantité d'eau, et ça c'est très important à signaler, qui permettent et d'étancher la soif de l'enfant, mais aussi dans le même temps de lui apporter les nutriments requis pour sa croissance. Le premier lait qu'on appelle souvent le colostrum, on peut le comparer au premier vaccin de l'enfant parce qu'il contient des éléments, des globules qui permettent de protéger l'enfant contre un certain nombre d'infections.
C'est le premier lait qui sort juste après la naissance de l'enfant.
Après la naissance de l'enfant, mais que dans plusieurs communautés, on considère comme étant un lait inapproprié parce que sale. Mm-hmm. Il y a beaucoup de croyances qui sont associées à ce lait, malheureusement. Croissance sur le plan physique, mais aussi quelque chose qu'on ne voit pas souvent, il permet un développement adéquat du cerveau de l'enfant. Le lait maternel protège contre un certain nombre de maladies, comme par exemple la diarrhée, comme par exemple la pneumonie, mais aussi les allergies. Sur le plan physiologique, le geste d'allaiter exclusivement permet un contact vraiment corps à corps entre la mère et l'enfant, plus d'affection. Et je pense que c'est vraiment un des gestes les plus affectueux que l'on puisse trouver. Pour la mère, il y a des avantages qui sont certains. On sait que l'allaitement permet de retarder le retour de menstruation et donc ça permet d'éviter des grossesses qui sont rapprochées, très souvent non désirées.
Et il paraît que l'allaitement permet même aux femmes d'embellir.
C'est vrai que une des raisons pour lesquelles beaucoup de femmes résistent à pratiquer l'allaitement, c'est qu'elles craignent de prendre un coup sur le plan esthétique. Mm-hmm. On pense que quand on allait, on devient
une fan,
les symptômes. Mais ça, ce n'est pas quelque chose qui a été prouvé de façon très stricte et qu'il y a des mesures que l'on peut prendre quand on allait et qui permettent de maintenir son physique comme il était avant la grossesse.
Monsieur Siméon, vous venez de parler des avantages, notamment l'accessibilité au lait maternel. Mais comment expliquer cette contradiction RDC, l'allaitement en sein maternel est le moyen le plus simple, moins coûteux d'un côté, et d'autre part, le taux d'allaitement est très bas.
Nous sommes à un niveau de 37% d'allaitement. C'est certainement pas le taux le plus bas dans la sous-région, mais il y a encore de l'espace pour faire des progrès importants. Je pense que le faible taux que l'on constate actuellement est lié donc à plusieurs contraintes. Il y a des croyances, je dirais, culturelles qui sont associées à l'allaitement. Et pourtant, l'enfant, juste pendant ses 6 premiers mois de vie, n'a pas besoin d'eau, parce que comme nous l'avons dit, le lait maternel contient 90% d'eau, c'est suffisant pour étancher sa soif.
Mais il y a des femmes qui ont du mal à produire du lait maternel. Que faire pour ces cas-là?
Donc, le simple fait pour l'enfant de téter stimule la production de lait. Et si l'enfant, vous n'avez pas initié l'allaitement, évidemment, vous aurez l'impression que vous n'avez pas de lait.
Donc, elles doivent insister, hein?
Elles doivent insister. Et c'est lorsque le sein se vide qu'il y a une production de lait.
Et restons sur la question du taux. Comment l'UNICEF et ses partenaires comptent-ils inverser la tendance?
Nous allons accompagner le gouvernement de la RDC, apporter un appui au ministère de la Santé pour effectivement faire en sorte que, à chaque contact d'une femme avec le service de santé, qu'il y ait le temps qui soit pris pour lui l'écouter et pour lui donner des conseils relatifs à l'allaitement maternel. Ça, c'est ce qui va se passer, ça, c'est ce que nous entrevoyons au niveau des structures de santé, et cela depuis la période de la grossesse.
Monsieur Siméon Anama, je rappelle que vous êtes responsable de la nutrition pour l'UNICEF. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci beaucoup, madame.
Le Nord-Kivu nous reçoit pour la rubrique Nouvelles en province. Plus de 30 000 déplacés enregistrés dans le camp spontané de Kanyaruchina. Nous sommes là à 7 km au nord de Goma, vivent dans des conditions difficiles. Ces familles qui sont arrivées sur le site depuis près de 2 semaines ont fui les affrontements entre les FRDC et les rebelles du M23 sur l'axe Kibumba-Ruchuru. Denise Lukeso a visité ce site. Elle nous propose ce reportage.
On peut les apercevoir les longs de l'axe principal Ruchuru-Goma, des centaines de personnes marchant des ballots sur la tête. Ceux qui sont déjà sur le site des Kanyaruchinia vivent dans les dénuements les plus totales. Si certains dorment à la belle étoile, d'autres se sont construits des abris de fortune. Tous attendent une assistance humanitaire. Difficile pour l'instant pour les humanitaires de fixer le nombre définitif de ces déplacés, car chaque coup de canot tiré quelque part jette des centaines de personnes sur la route. Témoignage de ces déplacés venu de Rougari qui n'a pas caché son désespoir.
Nous dormons à même le sol. Les enfants s'ouvrent avec le froid car il n'y a pas de couverture. Les gens ont juste monté des petites tentes. Je vous jure que nous n'avons rien du tout. Nous risquons de mourir de faim parce que personne n'a de quoi manger. Imaginez-vous que nous passons encore plus de 5 jours sans aide. Nous pensons que beaucoup de gens vont mourir et il y aura trop de maladies. Nous espérons de l'aide, soit de la Croix-Rouge, soit encore du gouvernement, parce que nous souffrons beaucoup.
En plus des conditions difficiles dans lesquelles vivent ces déplacés, l'insécurité a aussi élu domicile autour de ces sites. Ces personnes demandent la sécurisation du site.
Dès que la nuit tombe, des hommes armés viennent nous embêter ici dans le camp. Si on peut nous envoyer des bons militaires qui peuvent sécuriser le camp, mais aussi de quoi manger, nous serons vraiment contents. Parce que si cette aide n'arrive pas, nous risquons de succomber. Il y a des cas de viol, des vols, et il y a même des hommes armés qui tirent sur nous pendant que nous dormons. S'il vous plaît, qu'ils nous envoient la police pour notre sécurité, mais aussi de quoi manger.
Face à cette situation humanitaire précaire, les déplacés demandent aux autorités le rétablissement de la sécurité dans leur milieu d'origine pour leur permettre d'y retourner. Notons toutefois que la Croix-Rouge approvisionne ce site en eau, tandis que les PAM a assisté la semaine dernière à se déplacer en biens alimentaires.
Magazine de la Chance, portrait du jour.
Bon, je suis Loukite, d'ancien d'Alembert. Je suis ingénieur agronome, avec une expérience assez significative maintenant dans la phytopathologie des plantes à racines et qui véhiculent les plantes en général. Actuellement, je travaille à la FAO comme consultant en charge des plantes à racines qui véhiculent et bananiers. À la FAO, c'est déjà ma 12e année. J'étais à l'INERA dans les Bas-Congo, spécifiquement à la station de recherche de Mwazi, à 200 km d'ici. C'est l'institution qui s'occupe de la recherche agronomique en République démocratique du Congo. Je m'occupais de la phytopathologie, c'est-à-dire les maladies des plantes. Comme consultant, expert en plantes racines, donc nous avons en charge d'appuyer le gouvernement dans la promotion de l'agriculture, l'élevage, les forêts, eau et ainsi de suite. Comme je le dis, moi je me suis chargé pratiquement de la patate douce, et maintenant les bananiers. C'est comment trouver, mettre à la disposition des semences améliorées, de qualité, qui puissent permettre aux ménages, en gros, d'assurer la sécurité alimentaire. Nous donnons de cette façon-là, nous améliorons donc la situation alimentaire des paysans, et les paysans en ce moment-là, en produisant beaucoup, ont des revenus qui peuvent leur permettre de faire face à tous les problèmes qu'ils ont au niveau de l'alimentation, au niveau de la santé, scolarité des enfants, et ainsi de suite. Je suis pas tellement intéressé à la musique. Souvent, c'est la marche que je fais chaque week-end pour me maintenir. Et dans le cas de la musique, c'est la musique religieuse, généralement, qui m'intéresse. Alors, dans les activités extra-professionnelles, souvent, nous faisons de petites exploitations personnelles, si on a la possibilité d'acquérir une portion de terre quelque part.
Magazine des Nations Unies, le soin aux Nations Unies.
Et ce dimanche, c'est une dame qui pose sa question, Esther Moussoalou est femme ménagère et mère de 3 enfants.
Plusieurs fois, des campagnes de vaccination contre la polio ont été organisées à Kinshasa et ailleurs dans les pays. Et il nous arrive de suivre souvent à travers les médias qu'il se pose des problèmes de conservation de ces vaccins. On attend parfois que la chaîne de froid, si j'ai bonne mémoire, n'est pas respectée. Alors, moi, en tant que mère de famille, je m'interroge sur l'impact de ces vaccinations répétées, surtout sur les nouveaux-nés, les enfants de moins de 5 ans et même nous les personnes adultes. Combien de fois devrions-nous nous faire vacciner et faire vacciner nos enfants pour être protégés contre la polio? Et comment être sûr que ces vaccins sont sécurisés quand on apprend à travers les médias que certains vaccins ont été mal conservés?
Merci madame, nous avons en ligne le chargé de la planification, suivi et évaluation au sein de l'équipe chargée de la vaccination à l'OMS RDC. Le docteur Ntiaré Chouaïvou vous répond.
Et merci à Radio Café de me donner l'occasion de répondre à notre auditeur. Dans le cadre du programme d'éradication de la poliomyélite, la RDC s'est engagée dans cette perspective. Et c'est comme ça que les campagnes sont organisées pour répondre à des situations où la surveillance permet de détecter un cas de polio sauvage. Maintenant, combien de fois est-ce qu'une personne, un enfant, peut être vacciné contre la polio? Disons que dans le cadre du programme élargi de vaccination, donc la vaccination de routine, l'enfant à la naissance reçoit déjà une dose de vaccin contre la polio. Ensuite, à partir de 6 semaines, suivant un intervalle de 4 semaines, l'enfant reçoit avec les autres vaccins une dose de vaccin contre la polio 3 fois de suite à intervalle, comme j'ai dit, de 4 semaines. Ça, c'est la vaccination de routine. Maintenant, et tant qu'il y a un pays ou à l'intérieur d'un pays, un village qui héberge le virus, on va continuer à vacciner pour s'assurer que le virus n'existe plus dans le pays. Et que pendant 3 ans successifs, qu'aucun cas de paralysie due au poliovirus n'ait été détecté dans le pays. Je voudrais rassurer les parents que le vaccin n'est pas nocif, même si on prend 2, 3, 10, 10 doses. Maintenant, par rapport à la conservation des vaccins, il faut savoir que quand le vaccin arrive dans le pays, il est stocké dans une chambre froide. Et à la sortie de la chambre froide vers les zones de santé, cette fourchette de température est respectée. Il y a des glaciers, des boîtes isothermes qui permettent, avec les accumulateurs de froid, qui permettent de maintenir cette chaîne de froid jusqu'à l'administration du vaccin.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les détails des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Un seul rendez-vous à retenir ce dimanche. L'UNICEF poursuivra jusqu'au 7 août prochain sa campagne en faveur de l'allaitement maternel. Fin de ce numéro de votre magazine, une édition coordonnée par Jean-Pierre Elali Coco sous la supervision de Nicole Ngakamadidi. Mireille Boukassa Moukenzi vous l'a présenté. Merci d'avoir été de nôtre. À la prochaine. Thank you.